France Culture.
Et nous reprenons la route des midis. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec l'auteur, compositeur et interprète Thomas Fersen. Mais tout de suite, place au point culture de Marie Sorbier. Et rebonjour Marie.
Bonjour à tous. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris, dit le MAJ, va s'agrandir. Le chantier est prévu de 2027 à 2030 et doit permettre au musée de présenter une histoire plus complète des Juifs d'Europe. Alors, dans un article du Monde paru fin février, on apprend aussi que plus généralement, les musées dédiés à l'histoire et à la mémoire juive en Europe souffre d'une baisse de fréquentation importante depuis le 7 octobre. Alors quel est l'impact du 7 octobre sur les lieux de mémoire? C'est le dossier du Point Culture du jour. Philippe Ménard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en littérature comparée à l'université Clermont-Auvergne, directeur de la publication de la revue Mémoire en jeu. Dans un article du Monde, on apprend que le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris va lancer un nouveau chantier en 2027 visant à agrandir le parcours d'exposition permanente. Et l'historien Yvan Jablonka, qui est cité dans l'article, affirme, je le cite, « La muséographie est devenue désuète, il y a trop d'objets de culte qui ne sont qu'une toute petite partie de l'art et l'histoire du judaïsme ». Qu'est-ce que vous entendez dans cette déclaration? Est-ce que ça veut dire que le MAJ souhaite retirer la partie plus religieuse pour se concentrer sur une partie plus culturelle?
Écoutez, je pense que déjà la partie culturelle et les manifestations au MAJ sont amplement culturelles. Bon, c'est un petit peu réducteur. Effectivement, il y a une très belle salle en plus avec des synagogues dans l'exposition permanente. Mais je pense qu'il y a quand même un effort énorme du MAJ pour montrer l'ampleur et la richesse de la culture juive en France et européenne et mondiale, à voir la dernière exposition sur le D-Book, hein, qui est donc une pièce qui a circulé d'Europe de l'Est et à travers le monde entier et qui a été représentée à Paris de nombreuses fois entre les deux guerres. Hein, et je pense qu'il y a déjà un effort important et aussi au niveau pédagogique. Hein, il y a un très gros travail pédagogique qui est fait au MAJ pour justement montrer la richesse de la culture juive et son interaction. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est peut-être ce que vous voulez dire le collègue Jablonka, c'est-à-dire que il y a une question d'interaction de cette culture avec comment elle a enrichi la culture française et la culture européenne, mais aussi comment elle s'est elle-même enrichie. Il y a une interaction entre les deux.
Est-ce qu'il est particulier le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris par rapport à ses homologues européens, si j'ose dire? Est-ce qu'il a une particularité?
Il y a une richesse de collection qui est très très grande, hein, au niveau de l'art contemporain, de l'art en général. Hein, donc je pense que c'est quelque chose, c'est une des plus grandes collections mondiales. Donc je pense que c'est aussi ce point qu'il faut peut-être mettre plus en valeur encore, grâce à l'extension de l'espace. Et c'est dans ce sens que on peut trouver effectivement que c'était une heureuse initiative de pouvoir accorder ces fonds qui vont permettre effectivement certainement d'attirer plus de public.
Alors, dans le même article, on lit des chiffres assez édifiants. Hein. En 2024, on a dénombré en France 1570 actes antisémites. Ces actes ont doublé dans les collèges et lycées. 81% des musées juifs en Europe et aux États-Unis ont subi des actes de malveillance. Et d'ailleurs, ces musées-là voient leur fréquentation chuter de 38%. Comment comprenez-vous ce mouvement? Est-ce que le public a peur de s'y rendre ou est-ce qu'il ne veut simplement plus y aller dans ces musées-là?
Alors, je ne pense pas qu'ils ne veuillent plus y aller. Je pense qu'effectivement, il y a pu avoir une appréhension parce qu'il y a eu, il y avait quand même eu des quantités de après les massacres du 7 octobre, il y a eu quantité d'attentats aussi. Donc, effectivement, les gens peuvent appréhender. Moi, je me dis, il y a l'information, il y a les articles d'une chose, d'une part, qui constate un fait qui est réel, hein, et qui est absolument alarmant. Le travail culturel s'inscrit dans un temps beaucoup plus long, et je pense qu'il faut se dire que grâce à l'extension du musée, justement, et grâce à un travail pédagogique qui est très très important, on pourra attirer de nouveau le public et que sur un temps qui n'est pas si long, mais voilà, qui n'est pas celui de l'information et l'actualité, les musées vont voir revenir du public à ce niveau-là. Et pour ça, je pense qu'il y a une question de effectivement politique culturelle qui doit montrer la richesse de la culture juive, l'interaction, comme je disais tout à l'heure, avec les cultures nationales et les cultures d'autres communautés aussi. Hein, c'est important. Et je pense que ça, les responsables de ces musées en ont bien conscience.
Est-ce qu'on peut mesurer ou est-ce que vous avez une idée de l'impact du 7 octobre sur les lieux de culture et de mémoire ?
Bon, moi, j'en ai pas une idée objective, hein, parce que je travaille pas sur ces questions, on peut dire, d'ordre sociologique et de fréquentation. Bon, c'est évident que le 7 octobre... Alors, le 7 octobre, c'est un événement étonnant, parce que c'est un événement qui est à la fois, évidemment, sans précédent, mais c'est un événement qui a révélé combien, depuis au moins deux décennies, bon, on était quand même exposé à de l'antisémitisme qui prenait plus des détours pour s'exprimer. Donc, à la fois, on est dans le sans précédent, et effectivement, une violence tout à fait extrême, qui a certainement aussi fait peur déjà à la communauté, aux juifs, de ce qui pouvait arriver. Et puis il y a eu quand même un certain nombre d'attentats avant, en France aussi, hein, bon, à Toulouse, etc. Bon, l'hypercachère. Donc c'est pas. Voilà, on est à la fois dans quelque chose qui est dans une sans précédent, mais à la fois quelque chose qui s'inscrit finalement dans une montée et une visibilité de l'antisémitisme qui est devant nous depuis deux décennies. Donc, effectivement, il faut aussi maintenir une constante, on peut dire, un constant effort de présence, hein, surtout, et non pas essayer de se replier. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce qui est vraiment important. Une présence culturelle, une présence de l'interaction avec la société, entre communautés, culture et société, plutôt que de rester dans sa crainte et dans le repli. Je pense que c'est vraiment très important.
Vous avez parlé du temps long. Pour ça, on assiste à une accélération mémorielle. On a l'impression qu'on fait vite mémoire ou on construit vite des mémoriaux sur des grands événements qui se passent comme ça dans notre histoire. Est-ce que vous pensez que le musée est le lieu de cristallisation de cette accélération mémorielle ou est-ce qu'il faut garder le musée comme un lieu qui a réfléchi à ses collections et un lieu du temps long ?
Alors le musée, c'est, bon, évidemment le musée c'est un lieu du temps long. Je pense qu'il faut qu'effectivement le musée fasse partie d'un ensemble, d'un maillage mémoriel qui s'inscrit aussi dans la société, qui n'est pas simplement centré sur Paris. Bon, je pense qu'il y a eu ces dernières années un très gros effort du mémorial de la Shoah pour établir d'autres lieux à travers la France, et je pense que ça c'est très important. Et à l'instar du mémorial de la Shoah, ce serait effectivement bien qu'il y ait effectivement tout un maillage culturel à travers la France pour représenter et faire vivre la culture juive dans son interaction avec les autres communautés et avec la culture française. Donc ça, je pense que c'est effectivement le musée important, mais le musée doit pas être simplement un pôle. C'est-à-dire que c'est évidemment, ça doit faire partie d'une cartographie mémorielle à l'échelle de la France et à l'échelle de la nation et à l'échelle de l'Europe aussi.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Philippe Ménard. Merci.
Je vous remercie. Au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Amazon annonce l'arrivée des films doublés par intelligence artificielle sur sa plateforme Amazon Prime.
Oui, pour l'instant, 12 films et séries ont été doublés sans que des voix humaines n'aient été enregistrées. Destinés au marché latino-américain, ils auront désormais une version en anglais ou en espagnol. Le groupe avance que le procédé concerne pour commencer des œuvres qui autrement n'auraient pas été doublées, faute de rentabilité. Le but serait donc de rendre accessible sa librairie à davantage d'utilisateurs. L'entreprise de Jeff Bezos est la première à se lancer ouvertement dans le doublage par IA de programmes de fiction et indique que des professionnels contrôleront la qualité du doublage.
Le chat sort par la porte et revient par la fenêtre.
Oui, largement récompensé. Le chat de Flo, film d'animation primé aux Oscars, aux Césars et aux Golden Globes, va de nouveau pouvoir être vu au cinéma. 200 salles françaises vont permettre le retour de ce félin qui n'avait plus peur de l'eau. On doit son succès au laiton Gintz Zilbalodis, qui est aussi directeur artistique, directeur de la photographie et monteur de l'œuvre. Depuis octobre, 650 000 personnes ont déjà pu s'engouffrer dans cet univers lumineux, silencieux et englouti par un monde aquatique sans être humain, dans lequel Flo sillonne et se chamaille avec d'autres animaux pour survivre.
Et pour finir, Marie, une idée de sortie pour ce week-end.
Oui, vient de débuter en Normandie la 16e édition du Festival Spring dédié aux nouvelles formes de cirque. L'événement qui se déroule dans plusieurs lieux de la région propose une immersion dans la création contemporaine circassienne. L'occasion de découvrir une quarantaine de spectacles jusqu'au 16 avril prochain. Alors seront joués par exemple ce soir à Argentan Tom Zane, une chorégraphie sur toupie géante, ou encore Frasque à Cherbourg en Cotentin, un spectacle humoristique sur la réaction du corps face à des situations dangereuses. Et il ne faudra pas rater la nouvelle création du groupe acrobatique de Tanger avec l'acrobate Raphaël Boitel. Ce sera demain à Elbeuf et les 23 et 24 mars à la Comédie de Caen. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver le programme complet du festival sur la page de l'émission.
Merci Marie, et puis on se retrouve lundi pour de nouvelles...
Bon week-end,
de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.